1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Luther, qu'en reste-t-il ? Cette émission vous est proposée par Radio Arc-en-Ciel.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rudy Pop. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur au Temple Neuf qui se trouve au centre de Strasbourg. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du message que Martin Luther a voulu remettre au centre et de son actualité frappante encore aujourd'hui. On le rappelle, l'année 2017 correspond aux 500 ans de la réforme protestante initiée par Martin Luther. Alors quand on entend Martin Luther, on peut penser à Martin Luther King. Mais Martin Luther, il était là... quelques années avant, même quelques siècles avant. Du coup, avant de parler de ce message que Luther voulait remettre au centre, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler rapidement qui est Luther et qu'est-ce que la réforme de 1517 et après qu'on fête cette année ?
Alors ce qui est très important, c'est de se souvenir que Martin Luther était un catholique, je le dis un peu banalement, l'idée étant d'être sensible à l'unité que représente aussi l'idée de la réforme. La réforme, ça ne se décline pas entre guillemets contre l'unité des chrétiens, mais c'est un mouvement en faveur d'une unité. Seulement, malheureusement, cette idée initiale, elle a raté, on va dire, elle n'a pas fonctionné. La réforme, in fine, a été un échec, il faut bien se le dire, que mesurée aussi à sa propre ambition, la réformation protestante n'a pas porté ses fruits qu'elle souhaitait porter. Elle a été instrumentalisée, notamment par ces unités politiques territoriales, qui étaient donc les différents principautés en Allemagne, etc. Et donc, si on parle de Luther aujourd'hui, il ne faut pas croire que nous sommes en face d'un espèce de héros qui a fondé ou refondé la vraie Église, quelque chose comme cela. Nous sommes en face donc d'un catholique qui a connu un combat spirituel intérieur très intense, qui avait trouvé des réponses qui correspondaient aussi à la quête de son époque, et qui a été ensuite... il faut bien le dire, maltraité dans un fonctionnement politique qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est celui des égoïsmes territoriaux, où il y a un prince qui préfère effectivement être chef de sa propre religion que de se soumettre, en l'occurrence, à un évêque qui est ailleurs, etc.
Quel regard on a sur Luther aujourd'hui ? En gros, qu'est-ce qu'on pense de lui aujourd'hui, au-delà de tout cet aspect de la réforme dont on vient de parler ?
Moi, je le lis d'abord comme un grand auteur chrétien. Je trouve que c'est d'abord un brillant écrivain qui d'ailleurs pour cette raison-là a connu l'audience qu'il a connue. Donc c'est quelqu'un dont les écrits ont une force à la fois spirituelle et intellectuelle qui fait que à chaque époque depuis 500 ans il a pu parler à des gens simples comme à des universitaires dans les deux entre guillemets métiers il était brillant. C'est pour cette raison-là à mon avis qu'il est encore intéressant de le lire.
Ce qu'a voulu faire Luther, c'est remettre la Bible au centre. En quoi c'est un message fort encore aujourd'hui, hein. Luther a vécu au 16e, 17e siècle. En quoi ce qu'il a voulu remettre au centre, la Bible, en quoi c'est un message fort encore aujourd'hui ? Et finalement, à quoi sert la Bible, selon Luther, ce gros livre qu'on a peut-être tous dans nos bibliothèques ?
Mais je dirais, donc, pour moi, l'expérience spirituelle de la lecture biblique, et qui a été quelque part remis en vigueur par Luther, c'est de dire mais nous sommes tous des individus et qui ne sont pas en communion spirituelle automatiquement. Il faut un moyen pour pouvoir se parler, pour pouvoir aussi partager une parole qui nous vient d'ailleurs. Et donc pour Luther, ce moyen, c'est la Bible. Et donc ce qu'il a mis en route et qui s'est développé après, c'est pas lui tout seul, n'est-ce pas ? Il y a eu beaucoup de réformateurs pendant 500 ans, c'est une réforme qui continue, etc. Ce qu'il a remis en route d'abord, c'est d'instaurer un rapport à l'écriture qui permet d'écouter une parole en lisant. Et c'est-à-dire d'être sensible aussi à ce que, en tant que lecteur, je fais partie de la lecture. C'est pas un texte, entre guillemets, qui me donne une réponse plate à toutes mes questions et point. C'est pas un code civil ou quelque chose comme cela, un code religieux, mais c'est un événement de communication que de lire la Bible. Et dans cet événement de communication, il y a moi, il y a les autres, il y a le texte. Et ça, c'est, je pense que c'est fondamental encore aujourd'hui, cette idée que la Bible au milieu crée autour d'elle une parole qui circule, qu'on appelle l'Église.
Finalement, on entend tous parler de la Bible, on en a déjà entendu parler, c'est une évidence, mais quel est le message central de la Bible? Si on devait résumer en quelques minutes, le message de l'Évangile, hein, c'est le mot qu'on utilise pour parler de ce message central de la Bible.
Alors évidemment, ça c'est une question piège, hein, parce que je dirais que là, il y a le terme théologique du salut dans les questions. Pour moi, si je devais le dire aujourd'hui, là, ce matin, de manière un peu provocante, c'est que le salut est à venir, hein, que nous sommes avec la Bible dans une démarche d'avenir. Hein, il y a le « a » et un tiret derrière, dans l'idée que la Bible n'impose pas un ordre religieux ou une sorte de fonctionnement de société à partir de, par exemple, la société dans laquelle elle a grandi et dont elle est issue, mais elle vise toujours le monde à venir. Elle nous inscrit en fait dans une sorte de futur dans lequel on peut aller, dans lequel on peut se projeter, et avec cette vision-là, on peut se sortir de pas mal de tracas, d'un présent qui n'est pas toujours facile à vivre. Je pense que c'est ça la force initiale de la Bible, de dire mais allez de l'avant, et c'est dans le mouvement, dans l'imagination que vous aurez ensemble d'un monde différent, d'un monde meilleur d'une certaine manière, que vous allez rencontrer Dieu.
Quand on se renseigne un peu sur ce que Luther a voulu remettre au goût du jour, on a cette formule, j'aimerais dire, qui est sola scriptura. Alors c'est pas en français, on l'a bien vu, c'est du latin. Qu'est-ce que ça veut dire sola scriptura et qu'est-ce que voulait dire Luther à travers ça?
Alors le fameux sola scriptura n'est qu'une des cinq formules ou plusieurs formules qui résument en quelque sorte le message de Luther. Ça c'est toujours très paradoxal, n'est-ce pas, de constater qu'on parle de l'écriture seule, mais en fait il y en a d'autres. Il y a une confusion un peu dans les termes, une contradiction dans les termes. Parce qu'il y a, avec le sola scriptura, il y a d'abord le solus Christus, Christ seul, ensuite la grâce seule, la parole seule, et après aussi la foi seule. Donc la première question, c'est mais comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une chose qui vaut seulement et ensuite il y en a plusieurs? Alors, ça c'est un peu compliqué. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, ça, c'est sensibiliser tout simplement à l'expérience qui est derrière. Je pense que pour Luther, l'expérience de l'écriture seule, c'est la nécessité d'interpréter la Bible. C'est ça en fait pour moi l'intérêt, de dire que la Bible ne s'interprète pas par elle-même, hein, mais elle a besoin de son lecteur, elle crée en fait un vis-à-vis, elle nous encourage justement d'assumer notre responsabilité de lecteur, parce que c'est en lisant que je comprends ce que je lis.
Une deuxième formule, c'est sola gratia, on entend par là la grâce seule. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire justement la grâce seule, et en quoi finalement c'est actuel et en quoi ça rentre aussi dans ce qu'a voulu remettre au goût du jour Luther?
Alors c'est sola gratia, par la grâce seule, est vraiment le cœur de l'expérience de Luther. C'est cette, expérience réformatrice qu'il avait faite à un moment, qu'il a fait sans doute sur plusieurs années de sa vie, et qui était de vraiment d'être en confiance avec Dieu, en sachant que le salut n'est pas le résultat de mes efforts. Hein, de mes efforts religieux, de mes mérites qu'on peut gagner, ouais. Voilà, c'est ça. Mais que justement, cette relation à Dieu, elle s'obtient par grâce. Hein. Elle est un don, une grâce qui conduit donc le croyant ensuite à honorer Dieu.
Et une dernière formule, une dernière sola, c'est sola fide, on entend par là la foi seul. Qu'est-ce que ça veut dire, sola fide? Et pareil, même question, pourquoi Luther a voulu insister aussi sur cet aspect-là, dans ces cinq aspects qu'il a donnés, et dans ces trois scriptura, gratia et fide qu'on énumère dans cette deuxième partie?
On voit très bien que quand on parle de religion, on pense toujours que la foi, c'est ce que l'on a comme conviction. C'est un certain nombre donc d'affirmations que l'on croit, etc. Or, l'expérience de Luther, c'est justement que cette foi, elle est la foi de Dieu. D'abord, une foi que Dieu nous offre, que Dieu met en nous, une espérance que Dieu met en nous, un amour que Dieu met en nous. C'est ça l'espérance en fait chrétienne, de recevoir la foi et non pas de la produire par une conviction, par des espèces de catéchismes qu'il faut apprendre par cœur, etc. Donc le sola fide, la foi seule, c'est cette idée-là qu'il ne s'agit pas dans la vie chrétienne d'avoir la foi, mais de la recevoir, parce que c'est la foi de Dieu qui est première.
Pour terminer, on est dans un monde avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses qui se passent. On est marqué par la peur aussi, là on va le voir avec les élections, etc. Bref, c'est un climat ambiant qui n'est pas forcément agréable. Pour terminer, selon vous, en quoi ce que dit Luther, en quoi cet aspect de l'écriture, de la grâce, de la foi, pourrait redonner, finalement j'ai envie de dire, un nouvel espoir à nous, citoyens français, mais aussi dans le monde, dans l'Europe, en quoi finalement quelque chose qui a été pensé, écrit il y a 500 ans et qui a fait aussi son bonhomme de chemin, et je pense qu'on pourrait trouver des Luther encore aujourd'hui, même ici à Strasbourg, en quoi tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a voulu remettre au goût du jour, en quoi finalement c'est parlant et en quoi ça peut être une solution entre guillemets pour ce qu'on vit à notre époque aujourd'hui en 2017 au 21e siècle.
Moi, je crois l'actualité de Luther, c'est dans le fait que l'Église n'a pas fini. Elle n'est pas finie, elle n'a pas fini de se réformer et de, disons, de parler à ces personnes que nous sommes aujourd'hui. Pour beaucoup de nos concitoyens, et j'en fais partie d'une certaine manière, le message de l'évangile, c'est un truc ancien, il y a 2000 ans, on disait ceci, etc. Et donc, pour être chrétien, il faut se remettre finalement dans cette époque-là. Ça, je crois pas. Moi, je crois que l'évangile, il parle aujourd'hui, il a un avenir à apporter, à porter, et il nous le permet en plus de le partager avec d'autres. On n'est pas, entre guillemets, isolé avec cela. Et je pense que si Luther et si les 500 ans de réforme dont on se souvient là maintenant ont vraiment apporté quelque chose, c'est cette idée-là que l'Église, elle va vers le futur, elle est demain, elle n'est pas hier.
Merci Rudy Pop d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir accueilli.
On se dit à une prochaine fois, peut-être.
Avec
et
plaisir.
On vous souhaite une bonne journée.
Cette émission vous a été proposée par Radio Arc-en-Ciel à Strasbourg.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.